16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Birmanie jusqu'à 18h. Alors la Birmanie, c'est une destination qui a longtemps été complètement fermée, qui peut encore faire un peu peur. Jean-Bernard Carrier, quels sont les bons conseils que vous nous donneriez pour ceux qui rêvent d'aller en Birmanie, évidemment, quand on sera sorti de cette histoire de Covid?
C'est vrai que la Birmanie a longtemps été contrôlée par un régime politique dur, militaire, ouais. C'est une junte, et c'est vrai que cette junte, elle contrôlait, elle orientait les flux touristiques. Alors aujourd'hui, tout ça, ça s'est très largement desserré depuis Aung San Suu Kyi est au pouvoir. Il y a juste une région dans laquelle on ne peut pas encore aller facilement, c'est la région des Rohingyas.
Ah bah oui.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tensions, de conflits militaires avec cette ethnie qui est partagée entre le Bangladesh et la Birmanie. Donc cette région-là, elle est non accessible. Le reste du pays, maintenant,
c'est même pas la peine d'essayer d'approcher.
C'est pas la peine d'essayer d'y aller. D'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt. C'est une zone tendue. En revanche, tout le reste du pays est accessible pour les touristes en utilisant les moyens de transport locaux, les bus, les avions. Il y a un très bon réseau de transport intérieur en avion, par exemple, chose qu'on ne sait pas. C'est un pays qui a vraiment mis le paquet pour développer ses infrastructures.
Alors, on a parlé du lac Inle pendant cette émission, mais il y a d'autres sites qui sont incroyables. Il y en a un que j'adore. C'est le site de Bagan. Qui est juste une merveille absolue.
Ben Philippe, je ressens la même chose que vous. Nous partageons cette
une
même passion.
Une fois de plus
pour ce site de Bagan. On va le faire.
Bon ben on vous laisse. Hein.
Alors Bagan, je vais quand même résumer pour nos auditeurs. Bagan, c'est un immense site archéologique et religieux au centre du pays. C'est un petit peu le concurrent du site d'Angkor au Cambodge, pour ceux qui sont allés au Cambodge. Il faut s'imaginer quelques 3000 temples, et non pas 2000. Il y en a jusqu'à 3000 des temples bouddhistes disséminés sur une immense plaine, des temples qui datent des 11e et 13e siècle à peu près. Il y a différents types de temples. Il y a des pagodes, il y a des sanctuaires, des mausolées. Tous sont construits en briques. Certains ont été restaurés, dont sont restés dans leur jus. C'est un petit peu, si vous voulez, si je devais comparer, comme si vous aviez 3000 églises et abbayes réparties sur 50 000 km², soit à peu près 10 km sur 5. 3000 églises.
C'est unique. C'est incroyable. Voilà. On ne se rend pas compte. Et d'ailleurs, je pense que si vous voulez aller dépenser un petit peu de sous pour en prendre plein les yeux, Le meilleur moyen de voir cet endroit, c'est la montgolfière.
Ah, j'allais le dire.
Parce que je vous pique l'idée, excusez-moi Jean-Bernard. Parce qu'en fait, vous survolez et vous décollez. Parce que quand vous êtes au ras du sol, vous voyez quoi ? 3-4 églises, mais vous n'en voyez pas 3000. Mais dès que vous décollez un peu, vous vous rendez compte de la majesté de l'endroit.
En fait, il y a deux façons de découvrir le site. Moi, je n'ai pas voulu suivre les sentiers battus, évidemment. Vous me connaissez, Philippe,
comme
d'habitude. À pied, c'est trop grand. On l'a dit, 10 km sur 5, vous ne les faites pas à pied. Il fait trop chaud, ce n'est pas possible. En bus, c'est trop impersonnel. Alors, il reste une autre solution. Le vélo. Moi, j'aime beaucoup le vélo, vous le savez. En deux jours, on peut vraiment balayer tout le site en vélo. On s'arrête où on veut, quand on veut, à son rythme. Et
oui,
on voit des vestiges.
Il y a beaucoup de sable. Hein. C'est dur de pédaler
alors,
au milieu.
Il y a des endroits qui sont accessibles pour les vélos. C'est de plus en plus prévu aussi pour cette découverte-là. Et il y a beaucoup de vestiges qui sont à l'écart des circuits traditionnels en bus, au calme. Vous avez la sensation d'être seul au monde, dans une plaine magique. Et en plus, à l'heure du déjeuner, il n'y a plus personne. Vous êtes avec votre vélo face à des ruines complètement solitaires. Et vous êtes seul à en profiter. Ça, c'est une expérience de rêve. Plus, vous l'avez dit, la fameuse expérience en montgolfière. Alors, ce n'est pas le même budget, la montgolfière. Vous comptez à peu près 200 euros. Mais c'est vrai que vous y allez, par exemple. Alors, vous avez parlé de la montgolfière, mais il faut y aller au lever du soleil. Ça, c'est la vraie astuce. Parce qu'au lever du soleil, la texture de l'air n'est pas tout à fait la même, parce qu'il fait moins chaud. Et c'est là que le pilote peut justement descendre au plus bas. Et il frôle ces fameuses pagodes dans cette plaine. Et en arrière-plan, vous avez le fleuve Irrawaddy. Ça, c'est la carte postale de rêve en Birmanie.
Mais il n'y a pas de vie, enfin de village, tout ça.
Ah, si, justement. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de dingue. C'est que ce n'est pas un site figé, c'est pas un site mort, c'est un site vivant. Les Birmans, c'est un site religieux actif, les Birmans viennent sur place réaliser des offrandes. J'ai croisé des moines en tenue orange, on sent la dimension sacrée et mystique quand on est sur place. Donc c'est pas un site archéologique uniquement, c'est vraiment un site avec une ferveur.
C'est incroyable, franchement, ne négligez pas Bagan si un jour dans votre vie vous avez la chance de pouvoir aller en Birmanie. Côté rencontre, Jean-Bernard, vous avez plein de choses dans votre sac.
Ce pays est incroyable au niveau de la rencontre avec les Birmans. Alors on l'a dit, il y a une centaine de minorités ethniques dans ce pays, donc vous avez vraiment le choix. Et chacune a ses coutumes bien distinctes. Alors moi, je voulais vraiment rencontrer les femmes de l'ethnie Chin. Vous allez voir pourquoi, ça se trouve à l'ouest du pays. Je suis parti d'un village qui s'appelle Mindat et je voulais rencontrer ces femmes Chin parce qu'elles ont une particularité absolument phénoménale. C'est que les femmes de cette ethnie ont tout le visage intégralement tatoué avec des motifs géométriques. C'est une coutume qui a... on ne sait pas très bien l'origine. Est-ce que c'était pour, dans les anciens temps pour éviter qu'elle soit prélevées comme esclaves, soustraites aux raids des ethnies concurrentes. Mais en tout cas, ces femmes âgées, parce que les femmes, aujourd'hui, c'est une pratique qui est maintenant interdite, qui a perdu de sa validité, mais les femmes âgées portent toujours ces tatouages faciaux, mais même... y compris les paupières d'ailleurs.
Ah bon, ouais, c'est impressionnant. C'est horrible, non ?
Et alors, il faut y aller évidemment avec un guide qui vous servira d'interprète et de traducteur. Vous pouvez discuter avec ces femmes et c'est des rencontres absolument magnifiques. J'ai même rencontré des jeunes filles qui voulaient, qui avaient envie de reprendre cette tradition,
ah
même
bon
si, mais désormais c'est interdit parce qu'elles considèrent que c'est une très belle parure. Aujourd'hui, ça redeviendrait presque tendance.
Nathalie ?
Donc, la poudre d'arbre dont on parlait tout à l'heure, la poudre de citronnier, là, le tanaka, n'existe plus du tout là dans cette ethnie ?
Pas dans cette ethnie. Le tanaka, c'est surtout pour les ethnies, la principale ethnie birmane qui sont les Shan, c'est plutôt eux qui ont ce tanaka.
Il faut se repérer. Hein.
Voilà. Ah, mais c'est une mosaïque culturelle et ethnique, la Birmanie.
Ouais, c'est ça
qui est génial.
D'autres rencontres stupéfiantes, Jean-Bernard ?
Avez-vous entendu parler des femmes girafes ?
Oui.
Ah, oui. Oui. Alors, bon, c'est controversé.
Drôle,
alors, je les ai rencontrées, je suis allé près de... C'est les femmes de l'ethnie Kayan, je suis allé près de Loikao, avec un guide également. Alors, beaucoup d'émotions quand j'ai approché ces femmes, parce qu'effectivement, c'est quand même incroyable. Elles portent des anneaux en laiton empilés autour des jambes et des colliers tubulaires autour du cou. Et chaque année, on rajoute un collier,
oui,
ce qui fait que en fait,
ce
n'est pas le cou qui s'allonge, c'est les épaules qui s'abaissent. Mmh. C'est un peu ça la nuance. Alors, certains disent, oui, c'est une forme de torture,
bah
etc.,
oui,
qu'on inflige aux femmes. Alors, j'ai discuté avec des jeunes femmes girafes qui m'ont dit « Pour nous, c'est une parure. On est assez fiers de porter ça tant qu'on ne nous l'impose pas. » Donc, il y a des fêtes très régulières où elles adorent mettre ces parures-là. C'est plus quelque chose qui est imposé, c'est un choix. Elles peuvent l'enlever, tout à fait. Alors, ça demande un petit peu quelques manipulations, mais elles peuvent l'enlever. Ce n'est pas une torture comme j'ai pu voir certains reportages qui disent que c'est une forme de on impose aux femmes une certaine tenue, etc. Les jeunes aujourd'hui, et ces femmes que l'on voit dans ces villages-là, ont choisi
moi
de
aussi,
le porter.
Celle que j'ai rencontrée.
Ouais, voilà, elles ont choisi de le porter, elles en sont fières.
Vraiment, ouais.
Et alors,
et c'est pas un truc aussi un peu à touriste où on fait venir voir les femmes girafes?
Alors, pas du tout, pas où j'étais. Moi, j'ai trouvé que les rencontres étaient spontanées. Faut y aller avec un guide, toujours. Le guide sert effectivement d'interprète. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être un zoo humain, ça, je déteste ces ambiances-là. Là, on était vraiment dans des rencontres spontanées. Ces femmes girafes, elles ont un vrai métier. La plupart, elles font du tissage, elles tissent des tissus,
vrai.
Donc vous achetez leurs tissus, par exemple, c'est un bon moyen de les rencontrer. Les photos, vous ne les faites pas en appuyant comme ça. Vous demandez, il faut que ça soit consenti. On est dans un vrai rapport humain. Et puis, dans ces villages-là, vous l'avez dit, la Birmanie, ce n'est pas très touristique. Vous serez quasiment les seuls.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. On pourrait faire 3-4 émissions sur la Birmanie.
Minimum.
Vous l'avez dit, c'est beaucoup, beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de situations différentes. C'est vraiment un pays extrêmement intéressant. Demain, on va changer complètement d'univers. Nous partirons au pays de la Samba, du carnaval, des plages de Copacabana et d'Ipanema.
Ça va être chaud.
Et nous irons aussi jusqu'au cœur de l'Amazonie. Vous avez compris qu'on irait au Brésil. Et puis en première heure, direction les Hautes-Pyrénées avec des sites aussi exceptionnels. Le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie et bien sûr Lourdes. Tout cela demain, mais tout de suite, dans quelques secondes, le grand journal du soir. Bonjour Thierry Dagérard.
Comment allez-vous Philippe ? Vous avez passé un bon week-end ?
Oh bah c'était bien. Et puis je sais que demain on va parler du Brésil.
Ouais.
Du Brésil autrement que via le Covid, hein, parce qu'on a quand même oublié que c'était un pays fabuleux.
Alors on vous écoutera demain dès 16h. Merci beaucoup Philippe.
Bonne soirée.
Dans un instant, place à l'info sur Europe 1. Europe 1.